Bonjour, bonsoir et bienvenue dans L'Œuvre Noire, le podcast de métallurgie qui décrypte pour vous les références artistiques et culturelles du métal. Je suis Scalmax et pour ce 10e épisode, je suis accompagné de Guillaume. Salut Guillaume.
Salut.
Et Mathieu. Salut
Bonjour.
Mathieu. Donc ce soir, on accueille Guillaume, donc Guillaume Fleury, que vous connaissez si vous gravitez autour de la sphère Inox Circle notamment. Donc Guillaume qui écrit pour Rockhard, que vous avez entendu donc avec le podcast Inoxydable notamment, qui a aussi son podcast à lui, qui est Metallica Revisited, donc qui est un podcast qui retrace presque jour pour jour, heure pour heure, j'ai même envie de dire, la vie de Metallica.
Ouais, minute par minute.
C'est minute par minute. Et accessoirement, donc Guillaume est aussi guitariste pour Abduction, donc c'est à ce titre que je le reçois aujourd'hui. Et Mathieu est bassiste pour Abduction, parolier aussi. Et donc ils font tous les deux partie de Abduction, donc qui est un groupe de black metal mélodique. Je sais pas si l'étiquette vous convient.
Oui.
Ouais. Donc groupe qui, à l'heure où ce podcast sera sorti, aura sorti son nouvel album il y a quelques jours. On aura l'occasion d'en parler en fin d'émission notamment. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de l'album précédent, à savoir l'album que Abduction a sorti en 2020, qui est un album entièrement consacré au personnage historique de Jeanne d'Arc. Et donc voilà, l'occasion était toute trouvée évidemment pour en parler, puisqu'avec Guillaume, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Et puis, bah voilà, dans ce podcast, en fait, j'aborde assez souvent les histoires de sources d'inspiration, l'articulation qu'il peut y avoir entre la musique et les paroles. Bah là, c'était l'occasion de tout trouver pour pouvoir discuter précisément de ça, de ce lien qu'il peut y avoir entre les musiciens et le thème qui les a occupés pendant tout un album, pendant plusieurs mois. Moi, je suis très curieux de savoir ce que ça peut donner, et donc j'ai un grand plaisir d'avoir avec moi Mathieu et Guillaume pour discuter de ça aujourd'hui. Donc pour commencer, on va faire un petit rappel des faits, forcément, puisqu'on parle de Jeanne d'Arc. Donc alors je précise tout de suite que je ne suis pas historien, et bien entendu je compte sur Guillaume et Mathieu pour compléter, m'interrompre si jamais je dis des énormités. Bien sûr, auditeurs, auditrices, si jamais certains d'entre vous, pareil, repèrent des erreurs factuelles, je m'en excuse d'avance. J'ai essayé de faire le travail comme il fallait, on va dire. Mais voilà, bien sûr, on va essayer de faire les choses le mieux possible. Et puis de toute façon, je pense que nos deux invités sont très renseignés et ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc on va voir ça tout de suite.
Bon, après, on n'est pas historien non plus, hein. On a nos limites, on a largement nos limites aussi, hein.
Ouais. Bon, mais je pense que vous avez à nous trois, on devrait réussir à faire
Ouais.
quelque chose de bien. Donc on va commencer, bah, comme assez souvent dans le podcast, par un petit retour sur le thème qui nous occupe. Donc aujourd'hui, Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, qui est-elle? C'est une femme qui naît en 1412 à Domrémy en Lorraine,
Alors,
et dans un contexte.
on n'est
Pardon,
pas
excuse-moi.
sûr, on n'est pas du tout sûr, hein, de l'année de naissance. C'est une
Ah ouais,
supposition. C'est vraiment une
ça commence
supposition. Ouais.
très très mal,
Non, mais
donc.
c'est par contre
Non, non, mais
1412,
oui.
c'est quelque chose qui
C'est
peut être
intéressant, dis-moi.
entendu, mais c'est vrai que personne n'a pu vraiment confirmer la date exacte de naissance de Jeanne d'Arc.
D'accord. Et donc elle est originaire de Lorraine, et elle naît dans un contexte de guerre de 100 ans, donc qui oppose depuis 1337 les Anglais aux Français. Alors ici, encore une fois, je vais pas résumer plusieurs décennies de guerre, tout simplement parce que j'en ai pas les capacités, et puis on n'est pas là pour parler de ça, mais pour se concentrer, disons, sur le début du 15e siècle, en tout cas, où Jeanne va se faire connaître. On est à une époque, pardon, où il y a une alliance entre les Anglais et les Bourguignons d'un côté, qui vont contrôler le nord du pays, ainsi que la région de Bordeaux, et le roi de France de son côté, donc qui lui représente le camp des Orléanais, et Charles VII, et lui il se contente du sud du pays. Et donc on est dans cet état de fait, en tout cas en France. Lors de l'enfance de Jeanne d'Arc, et puis elle va très certainement faire bouger les lignes de son côté. Elle est connue, bien entendu, Jeanne d'Arc, elle est connue pour ses fameuses voix qu'elle a entendues, donc visiblement dès l'âge de 13 ans. Et suite à ça, elle décide de se rendre à Chinon, qui se trouve quand même à près de 600 km de Vaucouleurs. Donc Vaucouleurs, c'est la châtellerie où vit Jeanne. Et 600 km, bien entendu, à l'époque, c'est quand même traverser, c'est le bout du monde, quoi. Donc on a une Une jeune de 13 ans qui entend des voix et qui, voilà, en étant même pas encore adulte, va faire une décision, enfin, prendre des décisions quand même majeures. C'est ce qu'on appelle avoir la foi, je pense, de faire 600 km en 1412
Mais elle
pour
galère
rejoindre
beaucoup,
le.
hein, en fait, hein, avant d'arriver à Chinon.
Ouais,
Elle essaye de
d'accord.
contacter, justement, du côté de Vaucouleurs. Elle essaie de contacter les responsables du coin. On la fait court, hein, on va pas partir dans tous les détails, parce que c'est
Oui,
hyper
bien sûr,
important.
ouais.
Mais voilà, au début, il la renvoie chez ses parents en disant, gardez un petit peu mieux votre fille. On n'a pas le temps de perdre du temps avec ce genre de bêtises. Et c'est vraiment parce que vraiment elle insiste et parce qu'elle est extrêmement convaincante qu'ils finissent quand même par accéder à sa requête et par l'accompagner. Elle part pas toute seule du coup, ils finissent quand même par l'encadrer et
D'accord, ouais.
l'accompagner.
Et qu'elle voyage à travers des terres bourguignonnes d'ailleurs.
Oui, mais ça,
Ça veut pas dire qu'elle a eu froid aux yeux sur ce coup-là.
ce qui est très intéressant, c'est l'endroit où elle a grandi. C'est un endroit où la guerre qui sévit ne peut pas laisser indifférent. C'est pas étonnant en fait qu'elle soit autant marquée parce que elle est à un endroit un peu stratégique, quoi.
Et l'argument qui va lui permettre, enfin, qui est une escorte qui l'emmène jusqu'à Chinon, c'est l'argument religieux. Est-ce que c'est les fameuses voix du coup qu'elle entend ou?
Il y a plusieurs, c'est pas forcément super précis, hein, si je me trompe pas, on n'a pas d'explication extrêmement
On sait
précise.
qu'elle est particulièrement
Ouais.
tenace dans ses demandes
Voilà.
répétées auprès de Baudricourt notamment.
Baudricourt, c'est lui qui au début la renvoie.
Mais il est clair que la foi qu'elle démontre auprès de Baudricourt et des gens qui y sont a beaucoup fonctionné pour convaincre, au moins d'avoir une escorte et qu'elle tente quelque chose.
C'est ça, parce qu'au début, elle est. Parce que on dit souvent que c'est une fille d'extraction très populaire qui a vraiment absolument aucun contact. C'est pas complètement vrai. Alors par contre, c'est faux de dire que c'est une. Parce on a aussi tendance des fois à exagérer en disant qu'elle venait de grandes familles. C'est pas vrai non plus. Elle vient vraiment d'un petit village, dont Rémy, c'est tout petit. Mais par contre, son père, il a certaines responsabilités assez hautes quand même dans la ville, quoi. C'est pas un bourgmestre, mais c'est
Rien.
un propriétaire terrien. Je dirais pas aisé, mais qui pour l'époque vit assez bien. Et donc, quand elle va voir Baudricourt, par exemple, Baudricourt sait qui est le père de Jeanne d'Arc, par exemple. Ils savent quand même qui c'est. La marraine
D'accord.
de Jeanne d'Arc, c'est une notable du village. Donc voilà, c'est à nuancer en fait quand on dit. C'est à nuancer des deux côtés en fait. C'est-à-dire, c'est pas, elle vient pas d'absolument nulle part, mais elle vient pas non plus de grandes familles, de bourgeoisie, de noblesse, quoi. Voilà. Mais c'est
D'accord.
vrai que Baudricourt, elle y retourne plusieurs fois. Elle met plusieurs mois. Elle met vraiment plusieurs mois à le convaincre de la laisser aller rencontrer le roi. Et même avant de rencontrer le roi, elle a quand même plusieurs. Il faut qu'elle montre patte blanche, quoi.
Bah voilà, tu me fais une transition toute trouvée. Du coup, Chinon, pourquoi Chinon? Parce que c'est là où est réfugié Charles VII, donc qui est l'héritier du trône et qui est forcément contesté par les Bourguignons, du coup. Et il est dit parce qu'on va voir que pour Jeanne d'Arc, il y a la partie historique et puis la partie légende. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent entre les deux. Il est dit qu'en arrivant à Chinon, elle reconnaît le roi parmi ses courtisans. Alors après, sans doute à nuancer. Historiquement, est-ce que voilà ce qui se dit, c'est que grâce à ses voix ou ses dons divins, elle va réussir à immédiatement reconnaître Charles VII au milieu d'une foule de courtisans.
Alors en fait, a priori, les historiens se sont beaucoup penchés sur la question. A priori, le fait que le roi se serait caché dans la foule en se faisant passer pour un page et qu'il aurait mis un faux roi à sa place et qu'elle aurait quand même reconnu, a priori, ça c'est faux. A priori, ça fait partie du fantasme.
De la légende, du coup,
Voilà. Mais par contre, ce qui est rapporté et qui n'a pas été vraiment contesté, c'est que ce qui a pu faire pencher la balance, c'est qu'apparemment, quand elle est arrivée, elle a dit. Elle savait quelque chose qu'elle a dit au roi et qui en gros a totalement convaincu le roi. Donc les gens ont forcément lié ça au surnaturel. On sait pas exactement ce qu'elle lui a dit, mais il est dit, il est raconté, et là par beaucoup de sources, et c'est beaucoup moins contredit que le fait qu'il se soit caché parmi la foule, que elle est allée lui parler, elle lui a dit quelque chose à l'oreille, et que tout de suite il s'est dit ok, c'est une fille de confiance. Mais on sait pas quoi, on sait pas ce qu'elle lui a dit. Mais lui, ça l'a convaincu, a priori, ça l'a convaincu que les voix de Jeanne étaient authentiques, en tout cas. Parce qu'elle lui a a priori confié quelque chose qu'elle n'aurait pas pu savoir autrement.
Effectivement, le Charles VII va avoir confiance en Jeanne et elle va réussir, elle va avoir un certain nombre de succès à son actif. Elle est célèbre donc pour la libération d'Orléans, on l'appelle la pucelle d'Orléans notamment. Elle va réussir à libérer la ville du joug anglais. Puis elle incite Charles VII à aller se faire sacrer roi à Reims, qui est un territoire contrôlé par l'ennemi bourguignon. Donc Reims, ça va, ça permettrait d'asseoir la légitimité du coup du prétendant au trône. Et c'est une chose que Charles VII va accepter, puisque on le rappelle, hein, selon lui, Jeanne est guidée par Dieu, donc il lui fait confiance. Et donc ce sacre va permettre d'asseoir sa légitimité en tant que roi de France. La situation va ensuite se retourner, et là, je fais un premier pont avec l'album. On peut parler de face A, face B, j'imagine, puisque dans la face A, on a la phase d'ascension où Jeanne va aller va découvrir ses voies, puis va ensuite avoir des succès militaires, réussir à délivrer des villes, puis une phase B où on a disons la descente, où les choses vont aller de mal en pis pour Jeanne, malheureusement. Il se trouve que Jeanne écoute ses voix et se lance à l'assaut de Paris, mais Charles VII, de son côté, va interrompre le siège, et il y a une première divergence du coup entre eux. Il pense pouvoir lui négocier avec l'ennemi, et c'est là où, alors là, je vous donnerai la parole là-dessus, où est-ce qu'il y a la question peut se poser, est-ce qu'il y a une trahison de sa part, est-ce qu'il y a un manque de moyens, etc. Pour la libérer, ça viendra après. Et donc ce fameux siège de Paris est la première étape de la descente, de la chute de Jeanne finalement, puisque quelques temps après, il y a la bataille de Compiègne où Jeanne va être faite prisonnière par les Bourguignons. Et les Anglais, qui ont une dent contre elle, puisque alliés aux Bourguignons, et puis c'est eux qu'elle a chassés d'Orléans, ils la veulent à tout prix pour venger l'affront qu'elle leur a fait, et Charles VII, de son côté, ne va pas chercher à la libérer, alors qu'il aurait pu éventuellement recourir à de la négociation, à de l'échange de prisonniers, pour sauver Jeanne, qui l'a pourtant guidée jusqu'au trône. Alors, je vous donne la parole si vous avez des choses à dire, à nuancer là-dessus, peut-être sur cette histoire de face A, face B, et puis même sur l'histoire en elle-même.
Bah là, sur l'histoire, il y a un truc qui est important, je pense, de savoir si on ne sait pas, c'est que c'est pas uniquement Jeanne d'Arc et Charles VII, c'est-à-dire que Charles VII, il est entouré de gens qui ont beaucoup d'intérêts personnels, aussi bien à négocier avec les Bourguignons ou qu'à ne pas le faire, en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des embrouilles un peu entre tout le monde, c'est-à-dire chacun essaie de protéger ses intérêts. Et il arrive aussi un moment où Jeanne, toute prophétesse soit-elle, même aux yeux de la grande majorité des gens, elle fait un peu d'ombre à certains et elle en gêne un peu certains. Après, enfin, je te laisse si tu as autre chose à dire. Après, moi, je sais aussi que pour le... C'est à nuancer aussi le fait que Charles VII n'a rien fait du tout. A priori, il a quand même tenté quelque chose, même si c'était pas grand-chose. C'est ça ce qui lui reprochait surtout, c'est de pas avoir fait grand-chose.
Oui, je disais que nous n'avions tout simplement pas de source sur ce que Charles VII aurait pu faire ou non en faveur de Jeanne lorsqu'elle était prisonnière. Donc, en fait, on juge a posteriori, mais par défaut de connaissances véritables.
Voilà. En fait, en analysant des lettres d'époque ou des mémoires, des retours de gens qui ont vécu l'époque, il a pu être sous-entendu. Disons que c'est pas super clair parce qu'évidemment dans ce genre de choses, c'est pas des choses qui sont balancées officiellement à tout le monde. Mais il semblerait qu'il a pu tenter au moins une négociation, mais qu'il n'est pas allé très loin. Et il y a autre chose aussi qui est suggérée, c'est que plusieurs de ses amis, dont le fameux Gilles de Rais, dont tout le monde a au moins entendu parler, ont tenté quelque chose aussi près de Louviers pour essayer de la libérer, pour essayer d'empêcher sa mise à mort. Mais c'est pareil, ça c'est des choses, aucun historien n'a pu prouver à 100% que ça s'était passé et comment ça s'était passé.
Et donc pour en arriver à la fin finalement, Jeanne est prisonnière des Anglais, et il se trouve qu'elle est amenée devant Pierre Cauchon, qui est un ecclésiastique défenseur des intérêts anglais, et elle va subir tout simplement un procès en hérésie. Il y a une remise en question de sa foi, notamment des voix, de ses visions. On lui reproche aussi ses actions militaires et d'autres choses. On lui rapproche aussi de s'être habillé en homme. Alors là. Là, pareil, je vous demanderai aussi votre avis là-dessus, parce que j'ai vu des choses un peu contradictoires sur cette question-là. Et on lui reproche aussi d'avoir eu recours à la sorcellerie, ce qui décrédibilise forcément Charles VII, de s'être allié à quelqu'un qui aurait été impie finalement. Et donc, on connaît, la fin est assez connue en général pour Jeanne d'Arc. Elle est emmenée sur le bûcher et exécutée du coup
C'est-à-dire
suite à ce procès.
remettre en question la légitimité de Jeanne d'Arc, c'est invalider le sacre de Charles VII. Et c'est donc laisser le champ libre aux Anglais pour récupérer toute l'influence des villes, des différents partis qui étaient auparavant chez les Anglais et qui se sont rabattus vers Charles VII. À partir du moment où Jeanne d'Arc est considérée comme hérétique, disons que Charles VII n'a plus beaucoup d'assises, son sacre peut être invalidé, d'autant qu'il lui manquait des ornements qui se trouvaient à Saint-Denis, sous contrôle anglais. Il y a encore une fois beaucoup de guerres d'influence à ce sujet.
Et c'est pour ça qu'il lance le procès en réhabilitation plusieurs années plus tard, parce que il est de plus en plus les critiques sont de plus en plus insistants sur le fait que il a peut-être été aidé par quelqu'un de pas légitime. Donc c'est pour ça aussi qu'il va faire ça. Et c'est vrai que sur le l'une des grandes questions, c'est pourquoi est-ce qu'il la lâche comme ça alors que tout ce qu'elle lui avait prédit arrive, c'est-à-dire qu'elle lui apporte tout ce qu'elle lui avait prédit. Là, il y a beaucoup aussi il y a beaucoup d'interrogations, mais on pense quand même beaucoup à l'influence de l'entourage qui est de plus en plus lourd et au fait que les gens lui disent attention, enfin, il faut pas qu'elle prenne trop l'ascendant et il faut quand même la garder à sa place. Beaucoup de gens sont assez jaloux d'elle, hein, même chez les militaires, les chefs de guerre. C'est assez compliqué, ce qui peut se comprendre quelque part. Enfin, t'es une gamine de 16 ans qui vient et qui t'explique comment prendre Orléans et qui en plus arrive à le faire tel qu'elle le dit, alors que tout le monde pense qu'elle va pas y arriver. C'est forcément derrière.
C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, elle bouleverse aussi quelques codes et notamment le fait de s'habiller en homme, ça a pu ne pas plaire à beaucoup.
Ah ben ça plaît. Non, à l'époque c'est interdit. En fait, les femmes elles ont pas le droit de prendre l'habit d'homme. C'est vraiment c'est ils vont vraiment jouer là-dessus. Mais le problème c'est qu'ils lui font ils arrivent à lui faire quitter ses habits d'homme à un moment pendant qu'elle est emprisonnée et elle le reprend parce qu'en fait elle commence à faire elle commence sous la pression et sous la torture morale qu'elle subit parce que c'est vraiment violent et même physique. Elle commence à faire à revenir un peu sur ce qu'elle dit, ce qui est la première fois qu'elle le fait, mais elle se ressaisit très vite en disant non, en fait je veux pas me repentir de ce que j'ai fait c'est des trucs qui ont été forcés. Donc elle reprend ses habits d'homme et là ils se disent bah ça c'est là justement on peut l'accuser d'être relapse et on peut la condamner, on peut la condamner à mort. Mais
D'accord.
il y a plusieurs choses en fait parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent elle portait l'habit d'homme jusqu'à ce que la France soit libérée ou en tout cas que sa mission soit terminée parce qu'elle se considérait comme un soldat quelque part. Il y a cette interprétation-là et il y a aussi tout simplement le fait que quand elle est en prison, quand elle reprend ses habits d'homme, c'est plus facile d'échapper à des sévices physiques de la part de ses geôliers quoi.
Parce que moi, ce que j'avais lu, effectivement, ce qui me mettait un peu le doute, c'était que j'avais pu lire qu'il y avait des femmes, en tout cas à cette époque-là, au Moyen Âge, qui, pour combattre, qu'il existait des femmes soldats et qui du coup avaient des codes plutôt masculins, en tout cas à l'époque.
Ouais, il y avait des
Et
femmes chevaliers. Enfin, oui, il y a eu des femmes soldats.
chevaliers, en fait, enfin des chevaleresses, je crois, c'est ça le.
Ouais,
Ouais.
il y a eu plusieurs exemples. Mais c'est vrai que là, en fait, moi, je suis pas assez spécialiste, ça se trouve. Mais dans le cas de Jeanne, les Anglais ont surtout bien insisté sur tout ce sur quoi ils pouvaient insister pour la condamner. Le fait qu'elle prenne l'habit d'homme et qu'elle se mêle aux soldats, ça, on a beaucoup de témoignages. C'est vraiment intéressant. On a eu beaucoup de témoignages de son écuyer, notamment. Donc il l'a vraiment accompagné dans toutes ses aventures. Il était même impressionné de la manière avec laquelle elle avait très vite réussi à se fondre dans ce milieu très masculin qui est celui des armées et à se faire très vite respecter de tout le monde. Et c'est vraiment super intéressant ça. On a un témoignage de lui où il dit y a pas un seul des soldats qui a eu une pensée impure vis-à-vis d'elle alors qu'elle était une seule femme entourée de milliers d'hommes. Il y avait une espèce de respect, mais il y a des femmes qui dégagent un charisme incroyable. Qui fait qu'elle gagne le respect de manière naturelle. Là, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais l'actrice française Arletty, qui est une actrice que j'aime beaucoup de cinéma du début du siècle, il y a des anecdotes très célèbres sur le fait que c'était une des seules, peut-être la seule actrice à l'époque du cinéma français qui pouvait se promener nue sur un plateau sans qu'aucun homme n'ose lui faire une remarque déplacée la siffler ou comme il le faisait avec toutes les autres parce qu'elle dégageait un charisme naturel qui faisait qu'elle se faisait respecter tout de suite. Et là, bon, je suis pas du tout en train de dire de comparer les deux, mais voilà, apparemment elle dégageait quelque chose qui fait que quand elle était dans l'armée, ça n'a jamais posé de problème en fait. Il n'y a pas eu de, il y a des, il y a des, il y a des gens proches du roi qui évidemment la voyaient d'un mauvais œil, donc ils disaient dis donc, c'est pas normal qu'elle s'habille en homme, etc. Mais en fait, dans les faits, ça ne dérangeait pas ses camarades de guerre, et on sait même que ses camarades, ses compagnons, ils l'appréciaient beaucoup, quoi. Ils la voyaient vraiment comme une des leurs.
Alors on va passer une partie, alors malheureusement un passage obligé aujourd'hui, à savoir les interprétations politiques autour de Jeanne d'Arc. Alors on va passer par un moment qui va être forcément pas marrant, puis ça va devenir intéressant, promis. La première partie, donc, c'est évidemment qu'on peut pas ignorer aujourd'hui en 2023 que la figure de Jeanne d'Arc est malheureusement une figure qui a été un peu récupérée par l'extrême droite. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été le cas, et c'est justement ce qu'on va voir. Ça a été intéressant, en tout cas pour moi, de faire des recherches là-dessus, de voir qu'il y a eu on va voir que le Jeanne a été un peu trimballé de droite à gauche, et il y a plein de prismes de lecture autour de son histoire qui n'en fait en tout cas, enfin on peut certainement pas la réduire à un personnage qui soit xénophobe ou raciste ou quoi que ce soit. Donc il faut pas non plus se laisser emprisonner par une lecture réclamée par l'extrême droite aujourd'hui. Et bien entendu, je trouve que c'était important aussi pour vous, pour Abduction de manière générale, de clarifier là-dessus que évidemment, il n'y a pas de lecture identitaire ou nationaliste de cet épisode historique, et que évidemment, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'idéologie en tout cas dans les paroles du groupe. En tout cas, moi, c'est ce dont je peux témoigner personnellement en tant qu'auditeur. Je vous donne la parole là-dessus, et puis ensuite on va pouvoir repartir sur les interprétations. On parlait de ça, hein, de comment Jeanne a pu être récupérée par différentes forces politiques au fil des siècles.
Bah déjà, tu peux difficilement reprocher à Jeanne d'être xénophobe ou d'avoir la haine pour quelqu'un de différent d'elle, quand tu sais qu'absolument toutes les batailles, elle fait libérer tous les prisonniers systématiquement. Elle pleure et elle fait des prières sur tous les morts anglais en recommandant leur âme, parce que il faut vraiment comprendre sa piété. Je sais que c'est dur à comprendre, où il y a une époque où il y a beaucoup moins de spirituels qu'au Moyen-Âge. Mais elle aimerait vraiment par tous les moyens éviter en fait de faire couler le sang, et d'ailleurs elle appelle souvent les Anglais à dire il vaut mieux, enfin vraiment je vous exhorte de ne pas vous battre, parce que de toute façon vous allez perdre, mais je vous dis juste si on se bat on va vous mettre une branlée, quoi, en gros c'est ça. Et mais le truc c'est que tu vois très bien qu'elle a beaucoup de compassion et d'empathie même pour ses ennemis, et qu'en fait elle est dans une situation en plus, elle, de comment dire, de victime d'un envahissement en fait. Elle défend ses terres en fait. Elle défend son pays. Donc son idée, c'est pas de, c'est, enfin, ça rentre pas du tout dans le cadre de quelqu'un qui serait conquérant et qui voudrait. Non, elle veut libérer l'endroit où elle est. Elle veut pas conquérir ou éliminer d'autres gens. Ça n'a rien à voir. Elle veut. Enfin, si je caricature, elle veut qu'on lui foute la paix à elle et à tous les siens, quoi. Donc
ramener la paix dans le royaume, tout simplement.
Voilà, c'est ça. Elle, sa mission, c'est une mission de paix. Mais la paix, là, dans le cas précis, passe par la guerre. Et après, que dire d'autre? Bah, sur le groupe, je pense qu'on a toujours été, très clair là-dessus. D'ailleurs, on a vraiment jamais été inquiété par qui que ce soit sur ce sujet. Parce que de toute façon, c'est pas compliqué. Tu peux prendre tous nos textes et les retourner dans tous les sens. On incite à rien du tout, en fait. Je veux dire, c'est sans équivoque, quoi. Je veux dire, tu peux pas. Il y a pas d'idéologie dans ce qu'on fait, voilà. Et Abduction, c'est ni que ce soit ni par notre attitude, ni par ce qu'on peut dire en interview, ni par ce qu'on peut véhiculer même dans notre visuel ou par ce qu'on véhicule dans notre texte. Il y a rien dans tout ça qui incite à la xénophobie ou à l'identitarisme ou je ne sais ce que tu veux, quoi. On n'est pas un groupe comment dire revendicateur de quoi que ce soit. On peut aborder des thématiques politiques, sociales surtout en fait. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est plus des thématiques sociales que des thématiques vraiment politiques.
Le cadre de Jeanne, c'est des vocations historiques éventuelles.
Ah, puis nous, on est en plus là avec Jeanne, on est vraiment dans de l'historique. Nous, on est très dans le romantisme, nous, hein, dans notre musique, c'est très poétique globalement, même si ça peut sonner cucu, mais nous, on est dans une vision de Jeanne qui est très romancée. On essaye vraiment, et là, on l'a même vu en préparant cette émission, parce qu'on a pris du recul sur trois ans après l'avoir fait. On s'est vraiment dit, on a vraiment essayé d'atteindre un équilibre entre du factuel comme historique, c'est-à-dire pas partir non plus complètement dans des délires. C'est pour ça que quand on peut corriger des choses qui sont un peu trop fantasmées, on va le faire. Mais en même temps, il y a des images là-dedans aussi qu'on sait qui relèvent peut-être un peu du fantasme, mais qui sont belles et qui servent bien la musique qu'on fait. C'est ce que me disait Mathieu tout à l'heure quand on préparait, c'est qu'au tout début, on était parti sur du très factuel dans nos premières notes, parce qu'on a ressorti les notes pour regarder comment on avait travaillé, et on était parti sur, voilà. Et oui, c'est vrai. Mathieu me rappelle qu'on va en parler plus tard. Mais en gros, Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est de plus en plus porté sur le plutôt essayer de comprendre comment Jeanne ressent les choses, comment elle vit en tant qu'être humain, comment elle vit de son expérience, comment elle est, et aussi les gens qui sont autour d'elle. C'est ça qui nous intéresse beaucoup, nous. C'est beaucoup plus l'humain, en fait. Mais du coup, effectivement, derrière, il n'y a aucune revendication politique, quelle qu'elle soit. Déjà, je pense, dans ce groupe, on est quatre, et je suis pas persuadé qu'on ait tous les quatre les mêmes idées politiques. Déjà, rien qu'à commencer par là. Donc, on va pas commencer à brandir des messages, sachant que aucun de nous quatre n'est activiste politique, aucun de nous quatre n'est comment dire revendicateur de quelque chose d'extrêmement précis, quoi.
Très bien. Oui. Et puis je confirme le côté histoire dans les paroles. Je veux dire histoire avec un petit H notamment parce qu'on y en a, on a vraiment le sentiment de suivre la vie de Jeanne, quoi. Donc c'est je confirme le côté à la fois historique et en même temps on a tendance à s'attacher au personnage comme on pourrait le faire dans un livre ou
C'est exactement ce qu'on a voulu. C'est vraiment
pour un
pensé comme un
film.
film, en fait, hein. On a vraiment
Ouais, c'est
pensé ça
ça.
comme si c'était un film.
Merci.
Voilà. Et un film avec un peu de fantastique, un peu de, mais basé sur des choses réelles, des choses qui se sont vraiment
C'est ça.
passées et qui sont fascinantes parce que justement, elles sont pas explicables rationnellement. Et c'est ce qui est fascinant même chez les historiens. Mais j'ai lu des historiens parler de Jeanne d'Arc, même des historiens extrêmement, terre à terre, très, très athées et très, ils croient pas une seconde qu'elle a entendu des voix puisqu'ils ne croient pas en Dieu de toute façon. Mais ils disent par contre, bah voilà, Orléans, bah coup de bol, je sais pas l'expliquer. Je peux
Ouais.
pas vous expliquer. Elle a juste eu un monumental coup de bol et lui-même se dit, bon bah je pourrais même pas exactement vous dire comment, mais bon ça s'est passé et moi mais je n'y crois pas, mais je pourrais pas vous dire pourquoi. Et c'est génial. Et puis de l'autre côté, t'as évidemment des gens très pieux qui eux disent, mais évidemment qu'elle était guidée par Dieu, c'est évident. Et voilà, quand tu creuses tout ça, c'est vraiment passionnant à suivre. Surtout de te dire que c'est vraiment arrivé et que. Parce que pour le coup, on pourra en parler plus tard, mais il y a eu beaucoup de remises en question de plein de choses qui ont été très facilement démontées. C'est ça qui est intéressant aussi.
Bah, concernant la diversité de d'interprétations et d'opinions, donc comme je le disais, ça s'est retrouvé dans le spectre politique. Alors, on peut faire un petit état des lieux rapide de ça. On peut remonter notamment autour de 1820. On a disons une première occurrence de la chose avec une Jeanne d'Arc de gauche, projetant sur elle le fait que bah, c'est une fille des campagnes, plutôt populaire, qui a été trahie par le roi, donc il y a une dimension quand même un peu
Et par l'Église.
sociale
Et par l'Église aussi. Ça, c'est très
et par
important pour
l'Église.
les, voilà, pour les, pour la gauche ou l'extrême gauche du 19e siècle notamment. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ils disent, regardez, elle était où l'Église, quoi?
Et ça correspond, enfin c'est quelque chose qui en plus match avec l'époque, c'est-à-dire que 1800, en tout cas autour de 1820, on a un certain ressentiment envers le roi, donc Louis XVIII. La vision de l'histoire correspond aussi avec une mentalité ou une certaine tendance dans la société de l'époque, forcément. Donc ce qui fait que cette figure historique reste quand même assez malléable et on peut la pas la tordre dans
Qu'il
tous les sens, mais
soit
disons qu'elle a
politique ou idéologique, tous les courants peuvent facilement se réapproprier Jeanne d'Arc, l'utiliser à leur bénéfice. Là, franchement, sur les 160 dernières années, c'est assez évident justement à partir de sa redécouverte, de sa mise en avant par des travaux historiques, même s'ils étaient assez peu précis dans les débuts. Mais plus le temps a passé, plus les travaux se sont réalisés autour d'elle, plus il a été simple en fait pour n'importe qui de récupérer aussi bien son parcours que sa personne, quitte à triturer un petit peu les faits, ce qui donne du coup une multiplicité d'interprétations assez, assez phénoménale, très intéressante.
Ouais, et puis même au-delà du clivage droite-gauche, ça a aussi été une figure du féminisme, ça a été une figure de la réussite en partant de rien, ce genre de choses. On peut vraiment le remonter à plein de choses.
C'est même une figure des complotistes. Hein.
Des complotistes.
Ouais. Jeanne d'Arc, typiquement, c'est la personne. Bah, on en parlait un petit peu avant. C'est la personne qui est peu crue sur ses voix, qui a un côté Cassandre. Les complotistes, enfin une certaine frange des complotistes aiment beaucoup parce qu'ils se font toujours les porte-paroles de choses qui sont cachées, qu'ils veulent mettre au jour. Et là, c'est toujours des interprétations un peu, je vais pas dire tordues. Je voudrais pas non plus insulter les personnes qui ont leur propre vision des choses, mais c'est pour dire justement, comme tu disais, le côté malléable finalement de tout ce qui entoure ce personnage. Et chacun peut avoir un rapport finalement très personnel, peut s'identifier à elle en fonction de sa lecture, des événements, même factuels.
Ouais, d'ailleurs, même ce que tu dis, enfin, je suis peut-être un aparté, tu me dis si je suis hors sujet, mais ce qui est intéressant en plus avec ça m'y fait penser avec le complotisme, c'est que par exemple, ça, c'est un truc que j'observe souvent et qui me fascine toujours. C'est-à-dire que assez rapidement. On va dire, je crois qu'il y a des premières théories du complot vraiment sérieuses vers le 16e siècle, quelque chose comme ça. Après, ça s'éteint un petit peu. Au 19e, bon bah là, ça revient beaucoup. Mais il y a cette espèce de truc de certaines franges de gens, d'opinion publique, qui ne peuvent pas admettre, qui acceptent pas l'idée que qu'une grande figure puisse venir de nulle part. C'est pas possible en fait. Donc il fallait lui trouver une ascendance noble. Il fallait qu'elle soit la fille du roi, la sœur du roi. C'est pas possible qu'elle vienne de nulle part. Tu vois, c'est.
Il y a des royalistes qui ont été parmi les premiers complotistes à dire qu'elle ne pouvait pas être d'origine populaire.
Carrément, il a relié carrément la famille royale, quoi. Il voit des choses incroyables. Enfin, si on fait très court, mais le truc le plus célèbre, c'est pour eux le blason de Jeanne d'Arc avec l'épée et la couronne, qui est pour eux, c'est un pénis qui rentre dans une vulve et c'est la preuve que c'est le pénis royal et la couronne du roi. Et tu dis, mais enfin, mais il y a rien. C'est Pastoureau, je crois, qui avait très bien dit ça. C'est que l'art héraldique, c'est pas hermétique du tout. Il y a rien de caché dans l'héraldisme. C'est tout le contraire. Normalement, avec un blason, on te montre exactement ce que c'est. Et là, ce que c'est une couronne qui rétablit l'épée. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et pareil. Alors après, on va te sortir. Comment ça se fait qu'elle savait si bien monter à cheval? Comme si tous les gens à l'époque, ça c'est l'image, les gens ils sont dans les visiteurs quoi. Et c'est comme si tous les gens à l'époque ils vivaient les pieds dans la merde, ils savaient pas monter sur un cheval. Personne savait monter à cheval, alors qu'elle était quand même fille de quelqu'un qui s'occupait d'animaux, qui courait quand même souvent la campagne. Est-ce que ces gens croient sincèrement que tous les gens du peuple c'était des abrutis qui ne savaient absolument pas monter à cheval? Ou comment ça se fait qu'elle sait écrire son nom, mais elle sait. Il y a plein de gens qui savaient signer leur nom et elle savait juste signer son nom. Et quand tu vois d'ailleurs sa signature, elle est pas, tu vois bien que c'est pas quelqu'un qui écrit des lettres entières. Hein.
Elle dictait ses lettres souvent. Hein.
Voilà, elle dictait ses lettres aux autres. Et plein de trucs comme ça. Et après, c'est pareil aussi. Alors, je continue parce que c'est juste intéressant ça aussi. Il y a un moment, c'est pas possible qu'une femme, quoi. C'est pas possible qu'une femme fasse d'autant grandes choses. Ça ne peut être qu'un homme, quoi. Et donc, ils ont commencé à dire, c'était un homme déguisé en femme. Et là, tu dis, mais attends, tu crois vraiment que la fille, elle a passé des années, littéralement, entouré d'hommes sans que les gens voient que c'était une femme? Et en plus on a des témoignages très précis dont un qui est super drôle et que j'aime bien raconter. C'est son écuyer qui dit elle avait une très belle poitrine, très avantageuse, je sais plus comment quels sont les termes exacts qu'il utilise, et il dit quand je la déshabillais, j'aimais bien lui titiller les tétons et lui toucher les seins, et elle détestait ça, elle me repoussait, elle me tapait et elle me menaçait et tu dis donc comment, et apparemment beaucoup de gens disent qu'elle avait vraiment des formes avantageuses quoi. Donc tu dis bon, les mecs c'est pas des comment ils auraient pu passer du temps avec une femme qui avait des formes un homme qui aurait des
sans s'en rendre compte.
Voilà, on a plein, ce que je veux dire c'est qu'on a énormément de sources qui confirment à 1000% que c'était une femme et qu'elle était pas d'extraction ni noble ni bourgeoise quoi.
Ça confirme ce qu'on disait un peu plus tôt, ouais, le côté en fait, les gens veulent voir ce qu'ils ont envie d'y voir, tout simplement. Et puis, chacun va se faire, peut s'y faire une opinion. Alors, évidemment, je poursuis, hein, il y a évidemment une vision religieuse, bon, qui là s'entend tout à fait, hein, une Jeanne au bûcher qui peut être comparée au Christ sur la croix. C'est évidemment un parallèle qu'on peut faire très simplement. Et puis, on arrive, pour en revenir à l'extrême droite et peut-être sur l'origine de tout ça. Le mouvement va s'appuyer sur Jeanne d'Arc fin 19e siècle, avec notamment l'Action française, Charles Maurras, etc. Parce que pour eux, elle représente, elle chasse l'anti-France. Donc l'anti-France pour eux, voilà, c'est tout ce qui est tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui n'est pas chrétien. Et donc dans ce même sillage nauséabond, on va avoir évidemment Pétain et Le Pen qui vont s'approprier cette figure de Jeanne d'Arc.
Pour la précision, entre Pétain et Le Pen, il y a Maurice Thorez et le Parti communiste qui ont essayé aussi de la récupérer. Simplement du ping-pong entre les deux, hein. Évidemment, comme on disait, elle peut être récupérée par n'importe qui, et le Parti communiste en a fait vraiment une héroïne, je ne vais pas dire ouvrière, mais d'origine populaire, modeste, comme nous disions tout à l'heure, trahie par le roi et par l'Église. Bah, c'était assez facile du coup pour eux de s'en faire une héroïne et de pouvoir la mettre en avant, et en même temps renouer avec dans les années 60 encore un petit côté, je ne vais pas dire nationaliste des gens, au moins patriotique. Un certain attachement en tout cas à l'histoire, et ce que le Parti communiste de l'époque pouvait accepter sans souci.
Oui, puis ce qui a cristallisé tout ça aussi, c'est vraiment la guerre de 14-18, parce que pendant 14-18, Jeanne est extrêmement représentée sur les images, j'allais dire, de propagande, mais oui, de pro-guerre, pour aller buter de l'ennemi, quoi.
Après, on retrouve des vitraux dans les églises de la Première Guerre mondiale avec la figure de Jeanne d'Arc enceinte.
Ouais, c'est ça, puis même à vos couleurs, je crois que c'est à vos couleurs que sur les vitraux, il y a Jeanne d'Arc qui est au-dessus de soldats en tenue de poilus, quoi. quoi. Et il y a, vraiment cette idée, ce qui est logique, hein, mais c'est toujours dans ces moments-là, en fait, dans les moments de difficulté, surtout de la guerre 14-18, qui a quasiment éliminé toute une génération de Français. Forcément, l'image, elle est très forte. Et donc, du coup, derrière, tout le monde veut essayer de la récupérer, quoi, de la prendre à son avantage. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour des raisons extrêmement différentes. C'est ça qui est assez impressionnant. Et j'ai pas d'autre exemple dans l'histoire de France de figure qui a autant été récupérée par tout le monde, vraiment tout le monde.
Et pour terminer sur quelques autres interprétations ou récupérations, on peut dire effectivement ce qui est quand même assez improbable, c'est qu'on ait à la fois Pétain qui se soit réapproprié Jeanne d'Arc, et en même temps les gaullistes ont aussi mobilisé Jeanne d'Arc, puisque voilà, elle a été elle a été vue comme une figure libératrice, on lui a posé la croix de Lorraine aussi en lien avec la résistance, tout ça. Donc c'est quand même, ça montre vraiment l'ambivalence de la chose, avec à la fois Pétain et en même temps les résistants qui se réapproprient la même chose, mais pas pour les mêmes
raisons, ouais, en fait,
évidemment. Et pour terminer sur puisqu'on parlait de voilà l'histoire de Jeanne qui était habillée en homme, etc. Même aujourd'hui, elle peut être vue comme une figure liée à la transidentité, ou en tout cas liée aux questions LGBT. Alors, dès le début du XXe siècle, il y a une poétesse notamment qui l'interprète comme figure lesbienne. Bah, en ce qui concerne la transidentité, il y a des liens qui étaient faits avec d'autres saints ou saintes qui, en fait, qui au cours de leur vie pouvaient se faire passer pour des hommes. Donc, notamment Sainte Marine et Sainte Eugénie, qui ont été à différentes époques qui étaient des femmes et qui, pour se faire accepter, disons, l'ordre religieux, pouvaient passer pour se faire passer pour des hommes, justement. Et puis je reviens sur l'histoire des chevaleresses aussi, pour rappeler que le fait qu'il y avait des femmes en armure qui pouvaient prendre les armes, c'était quelque chose qui était relativement accepté au Moyen-Âge et qui disparaît ensuite à partir de la Renaissance, puisque là on a une autre vision de la chose, et c'est quelque chose qui visiblement existait en tout cas au Moyen-Âge, et qui a été ensuite plus réprimé par la suite, quoi.
Ben, je trouve, des fois il y a vraiment beaucoup d'idées reçues qui sont fausses sur ce qu'était la place de la femme au Moyen-Âge, et c'est vrai que bah, y a un ouvrage de référence, c'est La femme au temps des cathédrales de Régine Pernoud, qui explique vraiment bien ça. Et je place Régine Pernoud parce que c'est une spécialiste de Jeanne d'Arc incontestable. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Après, dans le cadre de Jeanne, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. C'est simplement que si tu veux faire la guerre, c'est plus pratique d'avoir les cheveux courts et de porter un pantalon pour monter à cheval. C'est vraiment très pratique, quoi. Hein. Il y a rien d'autre que ce côté un peu pratique, quoi.
Bon, on va pouvoir parler musique à partir de maintenant. Alors pas encore de la musique d'abduction, puisque on y viendra juste après. Dans ce tour d'horizon, donc historique et à la fois politique, je pensais terminer par les musiciens, peut-être qui se sont appropriés cette figure de Jeanne d'Arc. Alors spoiler, vous n'êtes pas les premiers. Je suis désolé de vous l'apprendre. Il y en a d'autres qui s'y sont intéressés. Alors je me suis uniquement concentré sur le 20e, 21e siècle. Je me doute, et vous pourrez peut-être me compléter là-dessus, qu'il y a sûrement des compositeurs plus de musique classique qui sont allés s'intéresser, ou baroque d'ailleurs, qui se sont intéressés à cette figure-là. Donc pour faire un petit tour d'horizon rapide des visions de Jeanne d'Arc, notamment, donc comment elle a pu être décrite en musique. Bon, on peut parler d'abord du morceau de Leonard Cohen, donc Joan of Arc. Ce morceau, il va décrire une Jeanne qui se sent seule, qui n'a pas connu le mariage, tandis qu'elle se rend à l'échafaud, donc c'est la fin de sa vie. Et donc dans le morceau, on a un personnage qui s'adresse à elle et qui lui propose de s'unir à elle. On ne sait pas encore qui est en train de parler. Elle lui demande du coup son identité, et il se trouve que c'est le feu qui est en train de lui parler, qui va la consumer. Donc dans un mélange de résignation et de paix intérieure, elle se marie aux flammes devant tous les invités. Donc c'est le mot qui est utilisé par Leonard Cohen. Et en fait, les invités, on se rend bien compte que ce sont les personnes qui sont venues assister à son exécution. Pour donner un ou deux autres exemples très rapides, on a deux autres morceaux par Orchestral Manoeuvre in the Dark, donc qui est un groupe des années 80 que vous connaissez pour Enola Gay notamment, morceau super connu évidemment. Ils ont fait un diptyque sur Joan of Arc et Maid of Orleans, donc la femme d'Orléans. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu montres?
C'est le 45 tours du morceau dont tu parles.
Ah, très bien.
Et ils ont
utilisé
la signature manuscrite de Jeanne, comme nous on a fait.
D'accord, voilà. Oui, effectivement, je reconnais, ouais.
On l'a découvert
D'accord,
après,
donc
on l'a
OMD.
découvert comme ça en fait. On l'a découvert en voyant, eh, mais attends, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, et voilà, c'est
Qui l'a
Orchestra
fait.
Man in the Dark.
Et donc de leur côté pour donc Orchestra Man in the Dark, on a un autre point de vue pour le coup, c'est le point de vue d'un amant qui regrette de voir Jeanne partir et qui se demande si Jeanne serait prête à lui donner son cœur. Donc il y a une sorte de glorification dans le morceau. Elle est qualifiée d'ange, de femme dévouée. Et elle va jusqu'à se sacrifier finalement. Personnellement, musicalement, c'est le morceau que je conseillerais en tout cas. Moi, c'est mon penchant New Wave mélancolique qui parle ici. Mais c'est deux morceaux qui sont vraiment excellents, qui sont très marqués aussi par leur époque, hein, très années 80.
Oui,
Mais
ouais.
je valide complètement. Voilà. Et puis très rapidement aussi, une fois encore dans les années 80, on a les Smiths qui parlent très rapidement de Jeanne d'Arc aussi.
Mmh.
Donc dans le morceau Big Mouth Strikes Again, pour le coup le narrateur, qu'on suppose être donc Big Mouth, la grande bouche, grande gueule, regrette ses propos et il a dit des horreurs visiblement à son ou à sa partenaire. Et nous dit Now I know how Joan of Arc felt as the flames rose to her Roman nose as a walkman started to melt. Donc maintenant je sais comment Jeanne d'Arc s'est sentie alors que les flammes lui montaient au nez et que son Walkman s'est mis à fondre. Donc on a l'impression qu'on va avoir quelque chose d'un peu solennel, d'un peu grandiloquent. Et puis bon, on a un Walkman dans les flammes, donc c'est voilà, c'est les Smiths avec leur côté un peu outrancier, l'ironie qu'il y a dans leurs paroles de manière générale. Voilà. Et puis très rapidement, il y a une petite chanteuse pas très connue qui s'appelle Madonna qui a fait un morceau sur Joan of Arc aussi et qui idéalise aussi Jeanne d'Arc comme un modèle de bravoure. Donc voilà. Donc même les Anglo-Saxons ne sont pas rancuniers et ils ont aussi fait leur morceau pour en l'honneur de la pucelle d'Orléans. Je sais pas si vous aviez certains de ces morceaux en tête, notamment pour lors de la composition. Est-ce que vous les connaissiez d'avant ou
Non, on connaissait aucun parce que Orchestra Man in the Dark, moi j'ai découvert vachement tard, après, bien après, en le voyant, je l'avais vu, j'avais vu la pochette et j'étais allé écouter. Là, je suis allé à une convention de vinyle il y a quelques semaines, je l'ai revu en 33 tours et du coup, quand je suis rentré, je l'ai réécouté et là, on m'a offert 45 tours il y a quelques jours.
Ok.
Mais j'aime bien musicalement, globalement, j'ai trouvé que c'était sympa. C'est pas ce que je préfère, mais je trouvais que c'était cool. Il y a celle des Melvins aussi qu'on avait réécouté là qui est sur Houdini,
Ah
qui est
oui,
musicalement je
c'est
trouve
vrai.
qu'elle est pas mal. Bon, les textes par contre sont Melvins
Ça n'a
quoi,
rien à voir, il me
en
semble,
rien.
non, de
Ouais
mémoire.
non, ça n'a strictement rien à voir. On voulait mentionner quand même Eloy, qui est un groupe de rock progressif assez culte et
Ah
qui a
oui.
fait deux concept albums sur elle et un troisième là récemment. Il y a un double concept album en deux parties et puis il vient d'en sortir là un troisième et qui aborde encore le sujet.
Et de manière plus spirituelle. Ce
C'est
n'est,
très spirituel,
enfin, ça reste une base factuelle. Cependant, c'est davantage axé sur la spiritualité et surtout de la manière dont lui a découvert Jeanne, au travers d'une visite d'église.
ouais, de Notre-Dame de Paris
Notre-Dame.
d'ailleurs, ouais. Et c'est très intéressant ce qu'il fait musicalement et on sent qu'il y a une vraie passion pour le sujet, une vraie maîtrise aussi, qu'il a lu beaucoup beaucoup de choses et vu beaucoup de choses aussi, les films, tout ça, et c'est vraiment intéressant son approche. Faut aimer le rock prog old school parce que c'est vraiment old school, mais c'est vraiment chouette. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait The Majesty.
The Majesty, oui, un
Ouais.
groupe de Palerme en Sicile qui est plus sur une veine power metal, mais qui reprend un petit peu le principe du concept album avec les différentes étapes du cheminement de Jeanne. Je ne vais pas dire que c'est forcément proche de ce que nous avons fait, mais ça reste très très axé sur le personnage.
Et puis après, si on veut finir, là, que je pense, mais c'est un peu annexe, mais bon, il y a quand même Cradle of Filth qui a fait un album complet sur Gilles de Rais, qui était le compagnon controversé de Jeanne d'Arc. Donc c'est Godspeed to the Devil's Thunder. Mais après, bon, ça parle pas vraiment de Jeanne d'Arc, mais il y a un lien, quoi. Et pareil, il y a un bon représentant du métal anglais en plus. Donc c'est intéressant pour ça aussi, de voir comme les Anglais s'emparent aussi du sujet.
Alors, ça fait un petit moment qu'on parle, donc on va faire une petite pause musicale, évidemment. Donc, je vous passe un petit le bah, tout simplement le morceau introductif de Jeanne, du coup, par Abduction. Et on se retrouve juste après pour discuter plus précisément du concept album et des inspirations du groupe pour cet album consacré à Jeanne. Bien, donc de retour après cet extrait donc d'abduction, on va parler maintenant de différentes étapes pour la création du disque, la composition, les paroles, comment est-ce que les premières idées sont venues, etc. Bien, donc première question à ce sujet, c'est tout simplement l'origine. Pourquoi avoir choisi de faire dédier un concept album? Donc au-delà d'un album, c'est du temps, c'est des mois de composition, des mois autour à travailler autour des paroles. Pourquoi Jeanne d'Arc? Comment est-ce que c'est venu? Et question subsidiaire, pourquoi l'avoir orthographié Jeanne avec JEHA2NE? C'est une question que je me posais aussi, donc voilà, je vous écoute là-dessus.
On va commencer sur ça. L'orthographe, c'est l'orthographe originale de son nom. C'est celui avec lequel justement elle signe de sa main. C'est comme ça que ça s'écrivait à son époque. Donc c'est la vraie manière d'écrire Jeanne. Et après, on a simplifié, la langue évoluant. On a simplifié, on a supprimé le H. Mais nous, on a voulu, comme le titre de l'album, en fait, visuellement, c'est sa signature manuscrite. C'était logique de faire Jeanne. Le choix d'un album, moi c'est très logique et c'est très simple. C'est que c'est une, c'est, je suis fasciné par l'histoire depuis vraiment mon enfance, très tôt, quoi. Je pense que déjà dès 7-8 ans, j'étais fasciné par tout ce qui était chevalier, château fort, épopée, et fantastique aussi un petit peu. Mais surtout l'histoire quand même. Et Jeanne d'Arc, elle m'a fasciné très très vite. Je sais que j'ai très vite demandé à mes parents des livres sur Jeanne d'Arc. Je sais même que le film en deux parties de Jacques Rivette, qui est quand même assez, quand je le revois, c'est mon film préféré sur Jeanne d'Arc, hein. Il est quand même très costaud, il est lent, il est très austère, même si je le trouve génial. Mais je suis allé le voir au cinéma, moi. J'avais, je sais pas, 8 ou 9 ans, quoi, quand il est passé, parce que je sais plus exactement de quelle année il est, mais voilà, je suis allé le voir au cinéma et je me rappelle, j'avais récupéré les affiches, j'avais adoré, ça m'avait vraiment fasciné. Et surtout, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est depuis l'enfance, en fait, c'est les histoires incroyables, mais qui ont vraiment eu lieu, quoi. Pas les choses incroyables, mais du réel. Pas des trucs fantasmés à base de dragons de partout. J'aime aussi, hein, Bilbo le Hobbit de Tolkien, c'est le premier livre que j'ai lu quand j'étais enfant, que mon père m'a mis entre les mains dès que j'apprenais à lire. Et j'aime beaucoup ça, mais j'étais encore plus fasciné par les choses dont j'avais l'impression. Je me disais, là, l'endroit où je vis, là, le territoire sur lequel je suis, il s'est passé ça, il y a pas longtemps. Quand t'es enfant et que tu le construis, c'est vraiment fort, quoi. C'est vraiment magique. Et donc après, en grandissant, j'ai jamais perdu mon intérêt pour Jeanne. J'ai continué à lire des livres sur le sujet, à regarder des films. Et puis, quand on s'est dit, tiens, en fait, Abduction est très intéressé par l'histoire de France. Depuis le début, on s'intéresse à des personnages historiques, des moments de l'histoire depuis nos débuts. Et on s'est dit, un jour, on fera sûrement un concept album sur quelqu'un, quoi. Soit sur un roi, soit sur une figure, soit sur un événement précis, ou, toi, je sais pas, moi, une guerre, il y avait plein de possibilités. Et quand on s'est dit, si on faisait sur un personnage, je me suis dit, clairement, c'est Jeanne d'Arc. Moi, c'est une évidence. Il n'y a même pas à réfléchir 2 minutes, quoi. Et d'ailleurs, autour de moi, tout le monde le sait. Et je crois même, je sais pas si c'est François ou un autre dans le groupe, je crois que c'est François. Mais quand j'ai dit, on va faire un concept album sur une figure historique, François, il me fait, ouais, Jeanne d'Arc, quoi. Tu vois, enfin, c'est vraiment,
Ah oui, d'accord. Donc c'était quasiment acquis d'avance que ça
Oui, voilà,
partait
c'était une
là-dessus.
évidence, quoi. C'était vraiment une
Ok, ouais.
évidence. Donc voilà, c'était le choix. Il a vraiment été extrêmement simple, en fait. Je savais déjà depuis petit que un jour, si je faisais quelque chose d'artistique ou quoi, il y aurait des références à Jeanne d'Arc.
Et Mathieu, de ton côté, du coup, ton rapport à Jeanne d'Arc avant l'album, et comment est-ce que tu as reçu aussi l'idée de Guillaume par rapport à ça?
Mon rapport à Jeanne d'Arc est plus simple et moins passionné que Guillaume, c'est-à-dire que je l'ai découverte comme beaucoup de monde à l'école, tout simplement, au travers des cours de l'histoire de France, dans les versions raccourcies qu'on pouvait avoir alors. J'avais bien un livre sur Jeanne d'Arc que j'aimais parcourir notamment pour les illustrations, parce qu'il y a toujours eu des visuels assez forts entourant le personnage. Au moment où Guillaume a commencé à parler du concept album et d'aborder justement Jeanne d'Arc de plus en longueur dans notre musique, je ne vais pas dire que je connaissais parfaitement du coup son histoire, mais ça m'a permis de rattraper et de m'y intéresser de manière plus approfondie, et notamment sur tout un tas d'aspects que j'ignorais, et notamment les aspects, je veux pas dire fantastiques, mais plus légendaires, c'est peut-être un terme qui correspond mieux,
Surnaturel.
surnaturel, c'est vrai, sur ses voix et même sur la manière dont elle a pu remporter des batailles ou autres, je les ignorais très largement, même le côté des voix. Ce n'est pas quelque chose que j'avais forcément retenu, et pourtant j'aimais bien l'histoire. Alors de fait, aussi bien les aspects, comment dire, romancés ou historiques, surnaturels, toutes les interprétations possibles m'ont plu, et pouvoir aborder ça dans une vision plus musicale des choses, plus rythmée, vraiment chapitrée, C'était vraiment un défi intéressant. Donc, quand Guillaume l'a proposé, oui, j'étais assez content de pouvoir participer à ça. Surtout qu'on pouvait nous-mêmes donner notre propre interprétation, si on peut dire. En tout cas, allier la personnalité de Jeanne d'Arc avec l'identité du groupe, faire évoluer le groupe avec Jeanne d'Arc. Enfin, c'est un rapport gagnant-gagnant. C'était très intéressant. Oui.
Oui, je sais que j'avais l'idée. En fait, ça faisait longtemps que je savais que si on faisait un concept album, ce serait sur Jeanne d'Arc. Et en fait, ce qui a déclenché le truc, là, j'y pensais pendant que Mathieu parlait, c'est qu'un jour, bah, j'étais en train de composer quelque chose. Je compose régulièrement des trucs sur ma guitare et que je garde pour plus tard. Et on était en train de travailler sur À l'heure du crépuscule, l'album précédent. Et j'étais chez moi et j'ai bossé un truc qui, je me suis dit, ça, c'est super épique. Et je me suis dit, mais ça, ce serait idéal si je mettais en musique la bataille d'Orléans de Jeanne d'Arc. Et du coup, j'étais parti dans l'idée, je vais faire un morceau sur la bataille d'Orléans avec ce truc-là, quoi. Oui, voilà. En plus, Mathieu était là, ce jour-là. Et là, c'est là, après, je me suis dit, mais en fait, ouais, non, je vais pas en faire qu'un morceau. Ça fait longtemps que je me dis que si je faisais un concept album, ce serait sur elle. Donc, ça y est, puisque j'ai cette idée, c'est un signe, on part là-dessus, quoi. On fait le concept
On y va
album sur
quoi.
Jeanne maintenant, quoi.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez choisi une icône pieuse pour faire un album de black metal, donc il y a un truc que vous avez pas compris à un endroit quoi. Qu'est-ce qui vous est
Mais qu'est-ce qu'il y a de... Franchement, est-ce que en 2023, est-ce que c'est pas le truc le plus black metal
Tout à
possible?
fait. C'est sûrement
Je...
ça.
Les limites ont été tellement repoussées, on est tellement à un truc. Tu dis qu'est-ce qu'il y a de plus qu'est-ce qu'il y a de plus fort et de plus subversif que de consacrer un album à une sainte? Et après, alors là, je suis sur la blague parce qu'en fait, c'est pas l'idée. Le vrai truc, et c'est bon, ça va pas être incroyable. C'est juste qu'on s'en fout en fait. On fait ce qu'on a envie de faire. Et ça,
Oui.
pour moi, l'esprit du black metal, pour moi, c'est ça. Et je sais que par mon métier, j'ai eu la chance d'en parler avec des pionniers du black metal. J'en ai parlé avec Satyr, Satyr Icon, avec Grotol, Denslave, ou même encore récemment avec Hirsan de Emperor. Et à chaque fois, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'ils me disent tous. Ils me disent, mais nous, en fait, quand on a lancé le mouvement black metal, l'idée, c'était justement que la liberté artistique, elle est totale. Donc, on se met pas de barrière, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de codification, il n'y a pas le parfait manuel du black metal à respecter. On veut pas créer une espèce de secte, on veut pas créer un truc avec des choses dont on ne sort pas. Alors ça, c'est la vision très norvégienne, parce que si tu regardes bien tous ces groupes-là, même je peux rajouter Ulver, des groupes comme ça, ils ont très vite dépassé ce cadre. Et artistiquement, ou Todheimsgarn, tu vois, enfin, il y en a plein en fait. Et artistiquement, c'est des groupes qui pour moi ont tout compris. Enfin, c'est ça l'esprit pour moi de cette musique. C'est la liberté totale de parler de ce que tu veux et de ce qui t'exalte, quoi. Et moi, ça, pour le coup, la figure de Jeanne d'Arc depuis l'enfance, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, c'était évident d'en parler. Et après, le fait que ce soit une icône pieuse, que ça puisse être mal pris ou quoi, ça, franchement, on s'en fout, quoi. Vraiment.
C'est une question un peu provoque volontairement évidemment, mais c'est bah en fait oui, on parle du black metal machin, de ce que c'est, ce que ça doit être, etc. Ma vision du truc est qui fait que évidemment Jeanne d'Arc, enfin ce personnage-là colle bien à cette musique, c'est que le black metal, au-delà de l'être purement du satanisme, des choses comme ça, c'est une musique spirituelle. En tout cas, c'est, moi, je la ressens comme ça.
Ouais.
Et j'imagine que c'est un peu votre vision du truc
Ah, bah,
aussi, c'est
complètement,
que
complètement.
tu.
Et puis, en plus, avec Jeanne, il y a quand même, je veux dire, il y a tellement de choses à aborder. C'est-à-dire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'elle a été récupérée à droite, à gauche et par tout le monde. Tu peux y prendre plein de choses. Je veux dire, la figure de martyr qui périt par le feu, bon, bah, le black metal, il peut peut-être se retrouver là-dedans quand même, tu
Tout
vois.
à fait.
C'est, voilà, il y a plein de choses passionnantes là-dedans. Donc, accusé de sorcellerie, etc. Nous, c'est pas du tout vers là-dessus qu'on est parti, mais, c'est un sujet qui, pour moi, colle très bien à une musique aussi tempétueuse et passionnée que la nôtre, c'est-à-dire avec beaucoup de trémolo pour les combats. Je veux dire, quand on relate les combats quand les morceaux qu'on a fait sur la Chevauchée de la Loire, par exemple, ou sur Par ce cœur, l'Hélice Fleurisse qui parle de la prise d'Orléans, c'est idéal pour le black metal, ça. C'est génial. On est en plein dans l'action, quoi.
Alors, par ailleurs, c'est vrai qu'on nous a beaucoup associés avec du black metal médiéval, avec des groupes comme Véhémence, comme Aurlac ou Riaque, je ne sais plus comment on prononce. Alors du coup, c'est vrai qu'on a pu plaire à un certain public au-delà de la figure de Jeanne d'Arc qui aurait aussi pu susciter de la curiosité. Ça a aidé justement à détacher peut-être du côté pieux de l'image dont tu parlais, c'est-à-dire que ça rentrait dans un mouvement un peu plus vaste, un peu plus fort finalement de musique épique, qui parlait justement à tous ceux qui avaient une certaine affinité avec la période médiévale. Comme le black metal peut se détacher maintenant assez facilement des thématiques satanistes un peu faciles. Oui, je suis pas sûr que Jeanne d'Arc ait tant pu choquer, surprendre ou
Non, puis moi j'ai pas du tout l'impression que ça ait choqué, c'est-à-dire que j'ai absolument eu aucun retour de quelqu'un qui m'aurait reproché, par exemple. Tu vois là, par exemple, pour le nouvel album, on a fait une reprise de Mylène Farmer, on
Ah
a
ça.
voilà, et on a davantage de critiques acerbes sur la reprise de Mylène Farmer qu'on en a eu pour Jeanne, par exemple. Ça a plus dérangé certaines personnes qu'on reprenne Mylène Farmer. Et ce qu'on pensait pas en le faisant, hein, parce que nous, on réfléchit pas à ça quand on le fait. Et derrière, par contre, Jeanne, ce que j'ai pu sentir, et ça m'a vraiment fait plaisir, puisque bah moi, je suis vraiment passionné de cette figure, j'ai vraiment senti que ça intriguait et intéressait énormément de gens. Et c'est aussi ce qui a fait l'album a très bien marché, il s'est très bien vendu pour ça, je pense. On en a vendu vraiment dans le monde entier, mais même au Japon, on en a même vendu en Arabie Saoudite. Je veux dire, c'est la première fois que je vois un album en Arabie Saoudite, quoi. Et c'est parce que je pense que les gens dans le monde entier, ils voient, ah, un groupe français qui parle d'une figure héroïque française. C'est très intrigant. Ils ont envie d'entendre, même s'ils vont pas aimer, ils veulent écouter, ils sont curieux. Et c'est là que tu vois que Jeanne, elle fascine toujours beaucoup, beaucoup les gens, quoi.
Comme c'est une figure de résistance qui se bat contre un occupant ou autre, donc tu sais que les Coréens, les Japonais, ils aiment beaucoup Jeanne d'Arc, hein, en Asie.
Au Japon, Jeanne d'Arc, c'est très important pour eux. Ouais, absolument.
Maintenant, ce que j'aurais envie de, enfin, ce sur quoi j'ai envie de vous lancer, c'est sur la partie l'exercice du concept album, qui est quand même pas forcément facile, notamment en tant que parolier, que musicien et que groupe. Comment est-ce que vous avez géré ça? En tant que parolier, Mathieu, notamment, est-ce que t'as tendance à fonctionner dans ton coin, puis tu proposes quelque chose aux autres, ou est-ce que c'est quelque chose de plus collégial? Et puis tu disais que t'as dû te renseigner aussi pour connaître un peu mieux l'histoire de Jeanne d'Arc. Comment est-ce que tu t'en es sorti du coup avec toutes ces sources pour réussir à coucher quelque chose sur le papier et faire des paroles
Alors, tout part déjà de l'impulsion de Guillaume qui définit le thème de l'album. Dans notre processus de composition, en général, on réfléchit avec Guillaume sur ce que nous souhaitons aborder dans les morceaux. Alors là, pour un concept album, on allait bien sûr au-delà de ça. Il s'agissait de définir finalement les différentes étapes de la vie de Jeanne d'Arc que nous souhaitions mettre en avant. Habituellement, j'ai tendance à écrire pas mal d'idées de mon côté, de manière un peu littéraire, c'est-à-dire j'écris des pavés finalement qui n'ont rien de très poétique et qui cherchent simplement à synthétiser les principales idées que nous souhaitions aborder. Puis Guillaume se met à la composition, en fait, il a toujours tout un tas d'idées qu'il tente ensuite de structurer. Il voit les premiers jets en quelque sorte de textes que j'ai fait, que je lui transmets, et ça l'aide en même temps derrière à affiner, à créer, comment dire, des structures un peu plus cohérentes avec un vrai cheminement pour le coup. La plupart du temps, je dois constamment réaffiner les textes, enlever beaucoup de matière, essayer de rendre ça un minimum, intelligible, déjà, c'est quand même pas mal, puisqu'il y a un fond à respecter, à faire comprendre, notamment quand il s'agit de relater des événements factuels, même s'il y a quand même une part de légendaire, nous en parlions. Alors Guillaume en général m'indique quand même beaucoup. C'est un va-et-vient entre nous. Hein. On peut pas dire qu'il y ait de grandes étapes bien définies. Disons que mes textes, on tente plus ou moins de les coller sur ses idées, sachant que François intervient bien sûr pour les lignes de chant. Et en général, comme j'écris un peu trop, il faut quand même ramasser les formules, tourner un petit peu les choses, ce qui d'ailleurs a donné comment dire, des expressions un peu curieuses parfois dans les textes. Ça donne presque des aspects sibyllins au propos, mais bon, on pense avoir quand même réussi à rendre ça un minimum compréhensible, en tout cas facile à comment dire,
À appréhender,
à
oui.
appréhender, oui,
Ouais.
bien sûr. Pour le plus gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Oui, je suis assez tributaire de la musique, des compositions de Guillaume, évidemment des lignes de chant de François qui apportent toujours beaucoup d'idées. Pour ce qui est de la version finale des textes, donc c'est assez collégial. Pour reprendre ce que tu disais, il y a toujours une base que j'avance, évidemment. Mais pour ce qui est des réarrangements des textes, c'est beaucoup Guillaume et François donc qui permettent d'avoir le dernier mot, afin aussi d'imposer une cohérence à l'ensemble.
Bah, ouais, parce que moi sur la musique, juste c'est parce que l'exercice du concept album, la principale difficulté, c'est que tu racontes une histoire dans un ordre précis, quoi. Donc si tu racontes la prise d'Orléans, tu sais qu'il y a différents chapitres avec des moments de calme, des moments voilà où elle se recueille, elle prie avant d'attaquer, l'attaque, il faut qu'il y ait la blessure, il faut qu'il y ait voilà tout ce qui se passe, il faut que je sais déjà, j'ai mon petit scénario et il va se passer ça, 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 et il faut que mes idées correspondent à ça. Et par exemple, l'une des principales difficultés, le truc qui est plus facile quand c'est un album que tu fais un peu dans l'ordre que tu veux, c'est par exemple, tu dis telle idée ou telle partie de texte, par exemple. Et ben en fait, elle est mieux ailleurs, un peu plus loin. Ben on va la déplacer, c'est pas grave. Et de toute façon, le truc fonctionnera. Là, tu peux pas. Là, t'es obligé de raconter les choses dans l'ordre. Donc ça, c'était une... ça. Il y a des moments où on s'est un peu pris la tête, quoi. Il y a des trucs, c'était plus dur. De toute façon, je pense que c'est l'album qui a été le plus dur à faire de tous nos albums. Ça a été le plus long et le plus éprouvant à faire.
D'ailleurs, justement, pour répondre à la dernière partie de ta question, quand tu parlais justement des recherches que ça impliquait de faire pour connaître la vie de Jeanne d'Arc et ainsi pouvoir au mieux l'adapter, oui, nous avons dû piocher dans beaucoup de sources différentes. Alors c'est vrai que Guillaume en parlait au début, mais nous aimons tout ce qui est, comment dire, récit romantique ou en tout cas avec une certaine puissance d'évocation des événements, tout simplement, parce qu'il y a toujours un certain lyrisme dans la manière dont les auteurs, notamment du 19e siècle, abordent leur histoire. C'était des gens très passionnés, qu'ils soient historiens, vulgarisateurs ou autres. Donc, même en s'appuyant sur eux, sur les sources d'époque, sur Régine Pernoud et la plupart des, comment dire, des
Spécialiste,
historiens, des
ouais.
spécialistes, nous avons aussi un dictionnaire encyclopédique qui nous a énormément aidés, mais il a fallu recouper tout ça. Donc oui, c'est un travail en amont de fond assez important. Cependant, voilà, comme disait Guillaume, par rapport au chapitrage et aux idées, on a pu se servir de ça pour justement aller à l'essentiel, aborder au mieux, être synthétique, tout en étant évocateur, comme nous disions.
Assez rapidement, en fait, tu te demandes, quand tu fais, il raconte une histoire, tu te demandes comment tu vas la découper. Donc, on s'est dit, quelle est la meilleure manière de découper tout le cheminement de la vie de Jeanne d'Arc? Et c'est, on s'est dit, on va faire les villes. En fait, c'est chaque morceau, c'est une ville. Donc, tu commences à Domrémy, après, il y a Orléans. Et les titres de chaque morceau, ce sont les devises des villes, sauf le premier et le dernier, puisque c'est des petits villages dans lesquels il n'y a pas de devises. Enfin, le premier, c'est un petit village Domrémy où il n'y a pas de devises. Et Rouen, ouais, en fait, la devise, on trouvait qu'elle était, elle collait pas assez bien à l'esprit du morceau et on a
Ah,
préféré
ok.
lui donner un titre plus intéressant. Et en plus, c'était une conclusion, donc voilà, c'est ça. Et mais c'est vrai qu'à partir du moment où on s'est dit bon, on découpe, il y aura tant de morceaux et on va faire toutes les villes. Voilà. Et la Chevauchée de la Loire, c'est un ensemble de plusieurs. Voilà, ce morceau-là aussi à ta part, c'est parce que c'est un ensemble de plusieurs villes, parce qu'il y a plusieurs batailles d'affilée. À partir de là, c'est un peu plus facile aussi de structurer ton histoire, et sachant que voilà, et on a un tout petit peu triché avec le morceau Foi en ces murs jusqu'aura, qui normalement devrait intervenir après Battu par les flots, jamais ne sombre, qui est quand la prise de la bataille de Paris. Mais lui, par contre, on a préféré le mettre avant comme une annonce, parce que ça équilibrerait mieux l'album musicalement. Donc
D'accord.
c'est une petite triche, mais rien de grave. Et c'est parce qu'en fait, le moment où elle a Melun, le morceau Foi en ces murs jusqu'aura, elle est dans les fossés de Melun, et en fait, c'est le moment où ses voix lui auraient dit qu'elle allait mourir, en fait, qu'elle allait être prise, en tout cas. Pas forcément mourir, mais qu'elle allait être prise avant la Saint-Jean, voilà, être capturée. Et on s'est dit, bah, ça annonce bien quand même, donc, mais.
On a repris le thème pour finalement faire quelque chose de moins factuel, moins événementiel et plus porté autour des voix, différentes voix. Ça pouvait être bien sûr des voix alliées, des voix ennemies. Les voix des intrigants, les voix des gens qui supportaient Jeanne, et évidemment ces voix surnaturelles, donc c'était beaucoup plus conceptuel déjà sur le sujet.
Ouais, voilà. Du coup, ce morceau central est à part des autres pour ça, quoi.
C'est quelque chose que j'ai ressenti en tant qu'auditeur. J'imagine que c'était pensé l'histoire de face A, face B, face A plutôt ascendante et une face B sur la chute de Jeanne
C'est
d'Arc.
ça, ouais. Si tu veux découper, de toute façon, c'est la même chose. Je parlais du film de Jacques Rivette, tout à l'heure. Jacques Rivette, il a fait son film en deux parties. Il a fait les batailles et les prisons. C'est vraiment exactement ça, quoi. C'est la partie l'ascension, la gloire, l'ascension fulgurante, et puis la partie chute, descente, jusqu'au martyr, quoi. Ouais, la première phase, elle se termine par les sacres, ouais.
Concernant la pochette, donc vous avez énormément de choix, parce que Jeanne d'Arc a été représentée quand même en peinture par un certain nombre d'artistes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce tableau de Paul-Antoine de la Boulaye? Alors, petite note aux auditeurs, auditrices, je vous mets le tableau à l'image que vous puissiez regarder. Pourquoi avoir choisi ce tableau-là, du coup, alors qu'il y a quantité de représentations de Jeanne?
Parce qu'il est magnifique. Parce que c'est la représentation exacte que je me fais de qui pouvait être Jeanne, en fait. Là, quand je cette manière de la représenter, pour moi, c'est, je sais, elle dégage exactement ce que j'imagine qu'elle pouvait être. Donc ce tableau, il me touche beaucoup, quoi. Moi, j'en ai une reproduction dans mon salon. C'est un tableau qui m'a toujours énormément marqué, quoi. Donc en fait, le choix, il est assez évident. Il y a d'autres très beaux tableaux. On en a même utilisé un autre dans le livret. C'est un tableau de George William John, Le Sommeil de Sainte-Jeanne d'Arc, 1895. Je pense
J'ai
que c'est
dû le
pas
voir
John,
passer
c'est
s'il est dans le
Joy.
livret.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je
Celui-ci, il est conservé à Rouen, d'ailleurs, et il est très très beau. Mais voilà, on a fait ce choix parce que, tout simplement, c'est purement esthétique, quoi. Il est vraiment, il représente Jeanne telle qu'on l'imagine, même si on sait qu'elle n'avait pas, elle avait pas elle était pas brune comme ça. Là, elle est presque rousse. On sait qu'elle n'était pas. Elle avait les cheveux plutôt noirs et elle était, elle avait pas les, elle avait, oui, elle avait les yeux clairs. Si ça, par contre, c'est bon. Voilà. Mais bon, voilà, ça c'est.
C'est vrai qu'il est aussi avec son étendard. C'est aussi une de ses images d'Épinal. Elle a toujours son étendard avec écrit Jesus Maria. Avec
un tableau d'entrée dans Orléans aussi, auquel on a pensé à un moment. On a pensé que ça pouvait faire une belle pochette, et puis finalement, en fait, le tableau d'entrée dans Orléans, c'est très glorieux, très majestueux. Tout le monde l'acclame. Et en fait, finalement, on s'est dit, nous, la Jeanne qu'on a voulu représenter, c'est vraiment. C'est plutôt la Jeanne seule, un peu tragique, avec ses voix, et comment elle ressent, comment elle le vit au fond d'elle. Donc ce tableau-là, en fait, il était beaucoup plus logique par rapport à la manière dont on aborde le sujet de manière peut-être plus intimiste, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a un côté un peu ultime quand même dans la peinture, parce qu'il y a pas de fond, on se focalise uniquement sur elle.
Oui.
Elle est au centre. On voit à la fois le côté guerrier et pieux en même temps, guerrier pour l'épée et puis pieux pour les yeux tournés vers le ciel, etc. Donc il y a un côté
Ouais.
un peu définitif là-dedans, quoi, aussi,
Ouais,
dans
c'est
ce.
ça. Puis ce qu'il a réussi à capturer aussi, je trouve, c'est on sent vraiment, je sais pas, on sent sa piété dans le regard, quoi. On sent sa détermination, on sent sa, on, et on sent, je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui fantasme, mais on sent qu'elle est pure, on sent qu'elle est animée que de bonnes intentions, qu'elle croit en ce qu'elle fait, qu'elle donne totalement un sens à sa vie, quoi. Et ça, c'est vraiment très très fort. C'est pour ça que ce tableau, je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Et je pense aussi. Je pense qu'il a joué un rôle non négligeable dans le succès de l'album aussi. Je pense que ça a marqué des gens, ils ont voulu l'avoir pour ça aussi.
Perso, pour préparer cet épisode, donc je me suis forcément documenté en parallèle de l'album, en lisant un certain nombre de choses. Alors, on pourra parler des sources peut-être pour terminer. Moi, j'ai lu des extraits de Michelet, donc l'historien, pour suivre un peu pas à pas, notamment ce qui est l'histoire de Jeanne au fil du temps. Et puis, en fait, ce vers quoi j'en ressors finalement avec l'album et puis toute la documentation, tout le côté la volonté de vouloir en savoir plus finalement qui est avec le point de départ de l'album, je ressors comme avec un certain attachement pour le personnage qui est à la fois martyr, qui meurt très jeune, etc. Est-ce que cet attachement émotionnel, donc toi Guillaume, tu disais que c'était quelque chose qui était présent depuis très longtemps, est-ce qu'il a été encore plus renforcé par cet album-là, Mathieu, est-ce que t'as ressenti aussi une certaine compassion, un attachement émotionnel finalement à cette figure qui a des siècles aujourd'hui?
Oui, l'attachement est assez multiple en ce qui me concerne, puisqu'en effet, j'ai passé beaucoup de temps dans les recherches, les sources avec Guillaume, on en a beaucoup parlé. L'attachement est venu donc notamment de par les sources d'époque, beaucoup les témoignages. C'est vrai que les auteurs du 19e qui sont assez romantiques ont une telle façon d'exposer les choses et ça implique forcément qu'on ressente quelque chose, hein. Toujours dans le lyrisme, c'est fait pour comment dire pour susciter une réaction émotionnelle, on va dire. Et au-delà de ça, comme je suis quelqu'un de très intéressé par la Première Guerre mondiale notamment, le fait que les poilus s'y soient beaucoup attachés et qu'il y ait beaucoup de rapports entre cette figure et leur propre martyr, on pourrait presque dire, ça a beaucoup participé en ce qui me concerne à ressentir beaucoup plus d'affection pour elle. Et bah, c'est vrai qu'aussi écrire des paroles sur sa trajectoire de météore, c'est quand même quelque chose.
Ouais, et puis moi, bah oui, comme tu dis, j'étais déjà passionné, fasciné par le sujet, mais là, c'est vrai que comme t'es tout le temps, nous, on a été, je pense, pendant un an en fait, complètement immergé dedans tout le temps, presque tous les jours, donc et à creuser, à lire des bouquins, des milliers de pages là, à regarder tout ce qu'on pouvait trouver, et en fait, tu découvres plein de choses, plein de petites anecdotes que tu savais pas, tu rentres dans les détails encore plus, et ça rend les choses encore plus clair, encore plus palpable. Et moi, le truc qui m'impressionne le plus et qui m'a le plus marqué, et c'est exactement comme toi, c'est-à-dire que je me suis senti encore plus attaché à sa personne, j'ai eu encore plus d'empathie pour ce qu'elle était, et d'autant plus quand tu regardes, je sais pas si tu l'as fait en anti-recherche, mais les minutes du procès, en fait, quand il reporte c'est-à-dire c'est une gamine qui a 19 ans maximum, selon les sources, qui est face à plein d'hommes très très mûrs et qui essayent de l'acculer, de lui faire faire des fautes, de la faire se parjurer. de la mettre totalement en contradiction. Et quand tu vois la plomb qu'elle a, tu te dis, t'as l'impression que ça a été dialogué par le meilleur dialoguiste. Et non, tu sais que c'est vrai parce qu'en plus, ça a été noté par des ennemis. Tu vois, c'est pas, et donc ils avaient pas intérêt à faire un truc. Et quand tu vois comme elle leur répond, l'humour, la dérision dont elle fait preuve, enfin, moi, je trouve ça incroyable. Je trouve qu'elle est, c'est très, très impressionnant, quoi. C'est, moi, je suis toujours impressionné par les personnes qui sont entières. Les figures historiques très, 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 sûres d'elles, qui sont entières. Elles iront jusqu'à la mort. Là, bon, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle parce que j'ai encore lu des trucs récemment sur le sujet, mais Louise Michel, par exemple, qui dit que quand on lui dit bon bah on va vous relâcher parce que vous êtes une femme en gros, et elle dit non 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 mais moi je veux que vous me mettiez à mort en fait, non non mais si vous tuez mes potes vous me butez avec. Et ça c'est un truc, ça c'est des gens, je me dis ça c'est des gens, ils y croient à mort, voilà, ils iront jusqu'au bout du truc. Et ça c'est incroyable, c'est vraiment fascinant. Et surtout quand c'est, comme tu disais au début de l'émission, c'est une jeune femme qui vient un peu de nulle part et qui part comme ça dans une aventure qui pour moi, enfin, est censé être complètement au-dessus de ses forces en fait, et jusqu'au bout elle garde une totale dignité, une totale foi en ce qu'elle croit. C'est vraiment impressionnant.
Ouais, pour résumer un petit peu cet aspect émotionnel et puis un peu conclure sur Jeanne, moi j'ai relevé notamment des vers que vous utilisez, parce que j'ai vu après que c'était une citation. Ne fut livré par personne.
Ah oui.
Mais constamment trahi par tous ceux qui la devaient le plus soutenir. Je sais pas, cette partie-là, notamment, résume tout à fait l'histoire de l'album, l'histoire
de Jeanne.
Ouais,
c'est Henri Wallon qui a dit ça. Ouais, c'est un historien du fin du 19e. Ouais, c'est vrai que ça résume bien les choses, ouais.
C'est avec ça que je ressors, en tout cas, après avoir vraiment plongé dans l'album, c'est découvrir une figure que je connaissais très, très peu au final, et, en fait, plonger dedans te rend le truc palpable, en fait. Tu parlais de ça tout à l'heure.
Ouais, puis en plus, je pense vraiment que tout le monde peut faire un lien plus ou moins personnel avec. C'est pour ça qu'elle était d'ailleurs récupérée de partout. C'est-à-dire que les sentiments de trahison, tout le monde a senti dans sa vie. Tout le monde a senti qu'il se battait pour quelque chose. Tu peux le ramener à plein de situations, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est assez universel tout ce qu'elle traverse.
Même l'adversité que tu mentionnais juste avant avec ses juges, j'imagine que beaucoup de personnes qui défendent des causes aujourd'hui, quelles qu'elles soient, peu importe leur bord, elles peuvent s'y retrouver facilement. D'ailleurs, si je peux me permettre, si vous cherchez Jeanne d'Arc dans les playlists de Spotify, vous allez tomber sur des playlists de rap, de musique émo, surtout vraiment tout un tas de genres différents. On ne comprend pas forcément le rapport avec Jeanne d'Arc, et souvent ce sont des playlists faites par des personnes en Amérique latine ou ailleurs en Europe, en Amérique du Nord. On ne sait pas ce qui motive ces gens à appeler leur playlist Jeanne d'Arc, Joan of Arc, peu importe. Mais oui, ce sont souvent des gens qui se considèrent souvent en minorité, dans l'adversité, avec des difficultés, et qui apparemment trouvent en Jeanne d'Arc, l'exemple illustre qui leur permet d'aller de l'avant d'une certaine manière.
Bah, de toute façon, c'est devenu une expression populaire, quoi. C'est à chaque fois, c'est ah, cette fille, c'est la nouvelle Jeanne d'Arc, machin. Tu vois, enfin, les activistes, Greta Thunberg, c'est notre Jeanne d'Arc, et t'as tout le temps des trucs comme ça, quoi. Ils sont tout le temps, tout le monde se réclame d'elle. Quand on a une femme forte, bah, c'est Jeanne d'Arc, quoi. C'est forcément ça, quoi. Tu citais Madonna, mais Madonna, elle a déjà dit, moi, je me sens un peu comme Jeanne d'Arc, j'impose mon féminisme, machin, voilà.
Pour conclure, donc, je vous propose une petite transition vers le nouvel album, parce que bon, là, à l'heure où on enregistre, on est à seulement quelques jours de la sortie de Toute blesse la dernière tue, donc qui est votre dernier album en date, qui sort chez Frozen Records. Tu as parlé tout à l'heure de Mylène Farmer qui déchaîne les passions. Alors je tiens à dire que moi j'ai donc c'est le titre c'est Alan, donc qui est lié à Edgar Allan Poe. C'est un titre que moi je suis pas très connaisseur de Mylène Farmer, même si quand vous côtoyez Guillaume Fleury, forcément, il vous envoie un lien à un moment ou à un autre. quoi qu'il arrive, j'ai écouté du coup Alan pour ensuite, enfin la version originale pour ensuite apprécier la version d'Abduction. Je tiens à dire que les deux sont super. Hein, franchement,
Ah, merci.
J'ai d'abord accroché à la version d'Abduction, parce que du coup, je trouvais que la version de Mylène Farmer, après l'avoir écouté une ou deux fois, je trouvais que c'était, je sais pas, il manquait d'un truc un peu fort finalement pour m'accrocher. Et puis je trouve que votre interprétation de la chose dégage vraiment de la puissance. Il y a un côté le chant notamment de François est très je sais pas bah très habité en fait tout simplement.
Oui,
et
oui.
Ça m'a fait revenir du coup à la version de Mylène Farmer où j'ai un peu compris, je pense, ce que j'aimais dans ce morceau, c'est le côté répétition de Alan, Alan, etc. Et puis Voilà, il y a vraiment un rythme qui se met en place dans les paroles qui m'a beaucoup plu. Donc, je finis mon tunnel. Mylène Farmer, donc c'est un des premiers extraits qui est sorti avec un autre extrait dans le Palais des Glaces également.
Dans la galerie des glaces.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de ce nouvel, la galerie des glaces, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce nouvel album, du coup, Toute blesse, la dernière tue. Qu'est-ce qu'on peut dire là, chaud, alors que c'est votre, il sort dans quelques jours et il sera sorti au moment où le podcast sort.
C'est pas un concept
C'est pas un
album,
concept album,
ça
ouais.
nous tenait à cœur de pas devenir un groupe à concept. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jeanne est sortie, il y en a plein de gens qui nous voient en disant, hey, le prochain, faut que ce soit sur machin, faut que ce soit sur truc, faut que ce soit sur bidule. Alors déjà, je vous dis, le prochain album, si c'est un concept, je sais déjà sur qui ce sera, et je vous le dis pas maintenant. Et ensuite, deuxièmement, ce sera peut-être aussi sur une période. Ce sera très probablement même sur une période, je pense que ce sera encore plus intéressant. On a déjà donné des indices, donc soyez, vous pouvez peut-être deviner. Mais blague à part, là, on avait vraiment envie de faire autre chose. Je pense que Jeanne d'Arc, ça a quand même été un énorme morceau. C'est ce qui veut pas dire que le nouvel album, c'est une récréation, hein, mais on s'est beaucoup, hein, beaucoup impliqué dedans, comme toujours. On prend ça très au sérieux. Je dirais que l'album est peut-être plus direct, plus accrocheur, mais c'est pas devenu des tubes non plus, bien sûr, mais c'est plus moins un tiroir que ce qu'on faisait avant. Je pense que la production est supérieure. Je suis très content du travail sur la batterie qui a été très éprouvant, mais qui est bon, quoi. Pas parce que le batteur est mauvais, notre batteur est très très bon, mais vraiment sur le son.
Chef-d'œuvre noir sur tout ce qui est thématique, paroles et autres, c'est vrai qu'on reste quand même sur des éléments historiques ou en tout cas qui se rapportent à des questions qui nous fascinent et notamment des choses assez évocatoires, on dirait. Il y a toujours du lyrisme un petit peu. On ne peut pas évidemment faire de multiples morceaux autour d'un même personnage ou d'une même période. On a vraiment varié cette fois-ci, mais on reste attaché quand même à lier le fond à la forme, aussi bien la musique, aux lignes de chant, au texte. Donc un gros travail a été fait là-dessus, d'ailleurs selon un processus un peu différent des autres fois, mais on espère que du coup l'impact sera toujours intéressant pour les gens qui écouteront.
Oui, c'est vrai que vu toi, c'est plus sur les textes. C'est vrai que là, on peut dire, oui, il y a toujours des thématiques historiques. Il y a un morceau qui est un hommage à Edmond Rostand et à Cyrano de Bergerac, par exemple. Donc là, on est vraiment dans la littérature. On a encore des morceaux qui traitent de la Première Guerre mondiale. Après, c'est plus sous un angle social, voilà, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi beaucoup. Il y a peut-être plus d'ailleurs dans cet album de textes qui sont plus centrés sur les peut-être des problèmes de société, ce genre de choses, sans que ça devienne des trucs moralisateurs ou quoi, mais
On y voit un engagement d'ailleurs, ce sont plutôt encore une fois des évocations, c'est vrai
c'est
que
ça.
j'utilise beaucoup ce mot-là, mais par exemple nous avons un morceau sur les explorateurs, les aventuriers notamment du 19e, début 20e siècle, l'aéropostale ou les expéditions antarctiques et autres. On peut pas dire qu'il y ait vraiment de message particulier là-dedans, c'est juste que nous apprécions le courage de ces personnes qui avaient beaucoup d'abnégation, et c'est en général un bon fil conducteur dans nos textes dès qu'il s'agit d'aborder des périodes, des événements, des personnages. On essaie toujours de rester sur le plan humain sans partir non plus sur des questions de société trop marquées.
Ouais, c'est pas des études sociologiques, c'est vraiment c'est juste, c'est très très centré sur l'humain comme toujours dans ce qu'on fait.
Non, bah le côté explorateur notamment, moi j'ai très très hâte d'écouter ça, de découvrir ça.
Ah bah, merci.
Et dernière question, alors Guillaume, tu m'avais parlé de projet éventuellement pour des concerts. Est-ce que c'est quelque chose qui se met en place pour Abduction et peut-être pour défendre ce nouvel album sur scène ou...
Oui, c'est le projet. On a très envie de
Ouais.
le faire, donc on est très confiant sur le fait que ça se produise. On a réussi à répéter un petit peu là pour un petit set acoustique, vraiment un truc de 25 minutes pour faire plaisir aux gens qui vont venir pour la sortie de l'album, donc le 9 décembre chez Frozen Records. En tout cas, ce sera notre première scène, même si c'est pas vraiment une scène, ce sera juste un petit set acoustique, mais c'est voilà, c'est une première expérience, mais on y prend beaucoup de plaisir. Là, on a répété ensemble. C'est la première fois qu'on répète là tous ensemble avec notre deuxième guitariste et puis même avec François, c'était la première fois. Nous, la dernière fois qu'on avait répété en groupe, c'était en 2010 peut-être. Enfin, on n'a jamais pu après parce qu'on est éparpillé partout en France. On a des vies très prenantes et derrière les années se sont passées et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui nous demandent mais quand est-ce que vous jouez en live? Et c'est vrai que ça nous titille aussi. Donc là, on a vraiment envie. Et là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a quand même une chouette alchimie entre nous. On aime beaucoup jouer ensemble. Donc on a très envie de porter sur scène en électrique et là on y travaille, on fait de notre mieux avec nos emplois du temps un peu dingue des fois pour essayer en 2024 de faire au moins 2-3 concerts, quoi. Ce serait vraiment cool.
Très bien. Donc, est-ce que tu peux me rappeler la date chez Frozen Records, du coup, pour la sortie de l'album, le 9
Ouais, samedi 9 décembre, ouais.
Samedi 9 décembre, d'accord. Donc, pour un show acoustique.
Voilà, un petit show acoustique 25 minutes, on fera 4 morceaux, mais voilà, c'est sans prétention, mais ce sera cool, ce sera déjà une bonne manière de présenter un peu des morceaux dans des versions un peu différentes, quoi.
Bon, ben, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier, Guillaume et Mathieu, d'être venus dans l'œuvre noire pour parler de Jeanne d'Arc. Merci beaucoup à vous.
Ben merci à toi, c'était très cool. J'espère qu'on n'a pas dit de bêtises parce que encore une fois, on n'est pas historien, donc ça se trouve sur des trucs où on était un peu aux fraises.
C'est
Mais
Internet, il y aura forcément des gens pour relever des erreurs.
oui, toujours. Mais justement, corrigez-nous, donnez-nous des précisions si vous en avez. Nous, on est toujours avide de découvrir de nouvelles choses. Et c'est pas parce qu'on a fini un concept album il y a 3 ans qu'on pense tout savoir sur Jeanne d'Arc, loin de là. Et on continue de s'y intéresser, découvrir des choses. Donc
Très bien.
merci
Ben
beaucoup.
merci à vous. En ce qui vous concerne, vous, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas bien sûr à partager cet épisode, à le commenter, à ajouter des anecdotes. Si vous avez écouté Jeanne éventuellement de l'abduction, n'hésitez pas à en parler de votre expérience, de votre découverte de cet album-là. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. Merci pour votre écoute et à plus. Salut!